France Inter.
Journal de Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, des Citroën fabriqués en Russie, en toute illégalité, avec l'aide de la Chine. Enquête sur cette piraterie industrielle qui échappe aux Français, Stellantis, avec notre correspondant à Moscou dans un instant. Un débat long mais serein, c'est le tout début pour le projet de loi sur la fin de vie à l'Assemblée devant une commission spéciale de députés à partir de ce soir. Dans ce journal aussi, le gel tardif hantise des arboriculteurs. Ils étaient sur le pont. Ce matin, l'Italie ou la tropicalisation européenne, illustration du climat de plus en plus extrême sur le continent. La violence des ados est-elle en augmentation vraiment? On a regardé les chiffres du ministère de l'Intérieur. Et puis elle n'avait pas eu droit à son biopic, La vie d'Amy Winehouse, au cinéma cette semaine.
À 8h20, le grand entretien de la matinale. Bonjour Léa Salamé.
Bonjour Nicolas et bonjour à tous.
Notre invité tout à l'heure.
Il a été chef d'état-major des armées jusqu'en 2021. Il raconte dans un livre Entre-guerres chez Gallimard, l'Irak, la Bosnie, le Mali, le Rwanda. Il raconte aussi le patriotisme des soldats, leur fraternité, la peur de la mort et c'est passionnant. Le général François Lecointre est notre invité à 8h20.
Et vos questions 01 45 24 7000.
France Inter.
Nouveau Citroën C5 Aircross fabriqué en Russie. C'est une entreprise russe qui s'en vante sur son site. Mais comment est-ce possible? Puisque Stellantis, le constructeur, a quitté le pays juste après l'invasion de l'Ukraine. C'est ce qu'on va voir avec Sylvain Tronchet, notre correspondant à Moscou. Bonjour Sylvain.
Bonjour.
L'usine Stellantis à l'arrêt depuis 2 ans est passée sous contrôle russe et fabrique donc des Citroën sans Citroën, mais avec un constructeur chinois.
Oui, c'est ce qu'on a compris au début du mois, hein, quand cette société russe Automotive Technology a annoncé la reprise de la production de véhicules Citroën à l'usine de Kalouga, 200 km au sud-ouest de Moscou. Des Citroën C5 Aircross, en apparence parfaitement identiques à celles que vous pouvez acheter en France, sauf qu'elles ne sont pas fabriquées par Citroën. Pour réussir ce miracle, les Russes ont bénéficié en fait de la complicité du constructeur chinois Dongfeng, qui a un accord avec Stellantis pour fabriquer des C5 Aircross en Chine et qui envoie donc des kits à assembler en Russie. Les carrosseries sont déjà soudées et peintes, en tout 1700 pièces qui sont acheminées par train de la Chine vers la Russie et qui permettent donc aux ouvriers russes de faire du mécano en quelque sorte et de sortir ces voitures.
Mais c'est donc parfaitement illégal, Sylvain.
Oui, alors chez Stellantis, en fait, on affirme avoir perdu le contrôle de l'usine russe depuis des mois. On explique aussi avoir signifié à Dongfeng qu'il n'avait pas le droit d'exporter ses kits vers la Russie. Alors cette affaire reste symbolique pour l'instant, au vu du nombre de véhicules produits, 2 à 3 par jour, mais elle est aussi géopolitique. Dongfeng est la propriété de l'État chinois et il y a chez le nouveau propriétaire russe des anciens hauts fonctionnaires proches du Kremlin. Tout ceci n'a donc probablement pas pu se faire sans un feu vert des deux pouvoirs. Stellantis proteste bien sûr, mais pas trop non plus. Son préjudice financier reste faible et le groupe préfère sans doute éviter de se fâcher vraiment avec le gouvernement chinois, dont le marché lui reste ouvert, contrairement au marché russe.
Enquête signée Sylvain Tronchet, merci, correspondant de France Inter en Russie.
Il est 8h05, tout doucement, faire aboutir la loi sur la fin de vie et l'aide à mourir.
Le texte arrive aujourd'hui à l'Assemblée, début d'un long chemin dont le départ sera donné ce soir par une commission spéciale de 71 députés. Ils vont débattre, éplucher le projet, l'amender. Après une dizaine de jours d'audition, Simon Le Baron dans le climat le plus serein possible.
Sur un sujet aussi sensible, il faut prendre le temps, explique la présidente de la commission Agnès Firmin-Lebaudeau, députée Horizon qui a largement participé à l'élaboration du texte quand elle était ministre.
On va commencer par bien sûr auditionner la ministre Catherine Vautrin, on va auditionner le Conseil national d'éthique, on va avoir des tables rondes avec les acteurs des soins palliatifs, avec les fédérations hospitalières, une table ronde avec les acteurs du domicile, avec des sociologues et puis des cultes et des sociétés savantes.
La commission a reçu énormément de candidatures pour 71 places. Soumise Caroline Fiat est fière d'en être l'une des rapporteurs thématiques.
Qu'une aide-soignante soit rapporteure sur ce texte, franchement, pour moi, c'est une belle victoire.
Et ces mots témoignent de cette aspiration générale à la sérénité.
C'est un très beau texte de loi, vous ne m'entendrez pas souvent le dire sous l'ère Macron. C'est vraiment parler de la fin de vie, mais dans son ensemble.
Débat apaisé, mais débat quand même, il est nécessaire, insiste le LR Patrick Hetzel, opposé à l'aide active à mourir.
Le rôle de chaque parlementaire est de montrer quels sont les angles morts, les risques aussi de dérive avec telle ou telle rédaction. Et puis ensuite, ce débat se poursuivra dans l'hémicycle à partir du texte amendé de la Commission.
Et à partir du 27 mai, là aussi, avec la volonté de ne pas se précipiter, la loi ne sera pas adoptée avant 1 voire 2 ans.
Et aucune consigne de vote ne sera donnée par les partis pour respecter les convictions intimes des députés sur le sujet de la fin de vie. Pas tranquille dans les vergers et dans les vignes. En ce petit matin du 22 avril, arboriculteurs et vignerons étaient sur le pont, partout où ils risquaient de geler, car des températures négatives en pleine floraison, c'est la catastrophe. Alors chacun sa méthode, brûler du foin, arroser les arbres pour créer une couche de protection entre le gel et le bourgeon, installer des bougies. Chacun fait comme il peut, Alain Gastal, comme dans ces deux vergers du bassin parisien.
Ces prochaines nuits encore, Pauline et son mari ne dormiront que d'un œil. C'est le thermomètre au milieu du verger qui donnera l'alerte à partir de 1 degré. Il faudra se lever pour allumer les bougies. C'est la seule solution assez coûteuse dans cette exploitation qui n'a pas de ressources en eau suffisantes pour arroser les arbres.
Il faut mettre entre 250 et 400 bougies à l'hectare. Il faut compter une dizaine d'euros en gros par bougie et ça chauffe ça pendant 8 heures. Nous, on ne peut pas couvrir tout notre verger puisqu'on a 5 hectares de verger. Par contre, on va sélectionner ceux qu'on n'a vraiment pas envie de perdre.
Pour la première fois, Pauline a pris une assurance récolte. Frédéric lui a fait un autre choix, pas d'assurance, pas d'arrosage, pas de bougie. Dans ses 9 hectares de pommes et de poires pour son verger planté en 2016, il a choisi des variétés tardives qui lui ont permis jusque-là d'éviter les dégâts du gel. Il est moins confiant pourtant cette année.
Clairement, je vous cache pas que je suis quand même assez inquiet quand je regarde les températures. Parce que bon, là, c'est vrai que même si j'ai des variétés assez tardives, là, ça y est, je suis quand même en pleine floraison. Tant qu'on descend pas en dessous de zéro, tout va bien. Si c'est le cas, je vous cache pas que oui, je vais être quand même relativement inquiet. Ouais.
Et c'est toute la semaine qui s'annonce froide avec des risques de gel, notamment jusqu'à jeudi sur une grande partie du pays.
Et selon Météo France, la nuit qui vient de s'écouler et la prochaine seront les plus froides de la semaine. Trop chaude et trop humide en revanche, l'année 2023 en Europe, disséquée par l'Observatoire Copernicus, avec des températures supérieures à la moyenne 11 mois sur 12, un nombre record de jours de chaleur extrême, soit plus de 46 degrés de température ressentie, et 2 millions d'Européens touchés par les inondations. L'Europe est le continent qui se réchauffe le plus rapidement et Bruno Duvic, l'Italie est aux avant-postes. Chez vous, on parle de tropicalisation du climat.
L'Italie a connu plus d'un événement climatique extrême par jour l'an dernier.
La Méditerranée est victime d'un punching ball climatique.
Antonello Pasini est physicien du climat au Conseil national de la recherche. Premier mouvement du punching ball, la chaleur. Ce sont les 45 degrés dépassés en juillet dernier en Sicile et Sardaigne. Ce sont aussi les glaciers des Alpes qui ont perdu 10% de leur volume.
Avant, l'air circulait presque toujours d'ouest en est. Mais désormais, de plus en plus, il circule sur un axe sud-nord-nord-sud. Arrivent d'abord ces anticyclones africains très chauds qui apportent une grande chaleur mais aussi la sécheresse.
L'Italie l'an dernier, c'est aussi 118 épisodes d'inondations dus à des pluies intenses. C'est le deuxième mouvement du punching ball.
Quand ces anticyclones repartent vers l'Afrique, entrent des courants froids qui créent un contraste très fort avec l'air chaud et humide préexistant, le sol chaud et la Méditerranée qui elle aussi se réchauffe. Et alors arrivent les désastres.
Cette extrémisation du climat a un coût, celui des inondations en Émilie-Romagne et Toscane en mai dernier est estimé à plus de 10 milliards d'euros.
Bruno Duvic à Rome pour France Inter. Extrader les narcos vers les États-Unis en Équateur, les citoyens ont dit oui très largement par référendum. Dans ce pays qui exporte la cocaïne produite en Colombie et au Pérou, la mesure est redoutée par les narcotrafiquants qui sèment le chaos depuis les prisons équatoriennes.
Il est 8h10, d'habitude Florence, c'est une période de fête en Israël.
Pessah, la Pâque juive ou la célébration de la sortie d'Égypte et de la condition d'esclave des Hébreux. Mais le cœur cette année n'est pas à la fête, il y a la guerre à Gaza et 129 otages toujours retenus par le Hamas, 34 sont présumés morts. Leurs familles ont lancé un appel aux Israéliens en leur demandant de laisser une chaise vide ce soir lors du repas traditionnel du Seder pour ne pas les oublier. Reportage de nos envoyés spéciaux à Tel Aviv, Ajra Mohamad et Sandrine Malon.
Yotam Cohen fait défiler les photos sur son téléphone. Ce sont les dernières fêtes de Pessah en famille.
This is the whole family, 2 years ago.
C'est toute la famille 2 ans avant. Moi, Nimrod, ma sœur, mes parents.
On avait mis nos tenues de fête, on s'amusait. On ne prendra pas cette photo cette année, malheureusement.
Cette année, pas de célébration, son petit frère Nimrod est toujours otage à Gaza.
Pessah est un jour qui symbolise la liberté. Comment pourrais-je célébrer la liberté quand mon frère est encore retenu? C'est absurde.
Sharon Lifshitz, elle ne sait pas si son père, Oded, est encore en vie, mais elle a décidé de rejoindre les membres de son kibboutz pour un grand dîner ce soir, une épreuve de plus en réalité.
C'est une situation impossible, parce que lorsqu'on se rencontre, on est vraiment confronté au traumatisme. Il se reflète dans les yeux de chacun.
En Israël, le soir de Pessah, il y a ce chant traditionnel qu'on entonne en famille.
Qu'est-ce qui est différent cette nuit par rapport aux autres? Pour nous, rien n'a changé. Pour moi, on est toujours la nuit du 7 octobre. Il n'y a rien à célébrer quand les otages sont encore à Gaza.
Au lieu de fêter Pessah, Yotam ira manifester ce soir pour réclamer la libération de son frère et de tous les autres otages.
Reportage Ajra Mohamed. Loin d'un accord de libération et de cessez-le-feu, Benjamin Netanyahou promet de nouveaux coups portés au Hamas dans la bande de Gaza, où les corps de 50 Palestiniens auraient été exhumés dans la cour d'un hôpital de Khan Younes, selon la défense civile gazaoui. Deux mois de couvre-feu à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. À partir de ce soir, les moins de 18 ans ont l'interdiction de sortir entre 20h et 5h du matin, sur ordre du ministre de l'Intérieur, pour faire baisser la violence des dernières semaine. Et cette violence des mineurs, mise en lumière par une série de faits divers en métropole, agression mortelle de Chemseddine à Viry-Châtillon, meurtre de Philippe à Grande-Synthe, cette violence est-elle en augmentation? Sarah Guibaudot, vous avez épluché les statistiques du ministère de l'Intérieur, chiffres incomplets mais précieux pour replacer la violence des ados dans le contexte des violences de la société.
En 2022, les données les plus récentes, il y a eu 119 homicides commis par des 13-17 ans, des garçons pour la plupart, et 5 homicides commis par des moins de 13 ans. Des chiffres en hausse, plus 12% sur 5 ans, mais dans la même proportion que la hausse générale des homicides en France, rapportée à leur poids dans la population. Les plus meurtriers sont de loin les adultes de moins de 45 ans. Depuis 2018, on observe en revanche une baisse des mineurs mis en cause pour coups et blessures ou pour des vols avec armes. Ils sont davantage mis en cause dans des trafics de stupéfiants. Quant aux violences sexuelles, elles explosent chez les mineurs aussi. En 2022, un rapport du Sénat relevait que les 13-17 ans représentaient une part importante des mises en cause pour certaines infractions, comme les vols violents. Les rapporteurs déploraient surtout de ne pas avoir de photographie complète de la délinquance des mineurs. Travail en cours, nous dit-on au ministère de l'Intérieur. De même, policiers et magistrats voient bien que l'usage des réseaux sociaux joue un rôle important, mais ils sont encore absents des statistiques.
Sarah Guibaudot.
Et sur la violence des jeunes, débat tout à l'heure entre la philosophe Ayam Sureau et le commissaire de police Frédéric Lose. Ce sera à 9h05.
L'attentat de Nice sur la promenade des Anglais le 14 juillet 2016. De nouveau devant la justice, deux hommes, des connaissances du terroriste, condamnés à 18 ans de prison en première instance, seront rejugés en appel à partir d'aujourd'hui. L'autoroute A13, fermée jusqu'en milieu de semaine, dans le meilleur des cas, annonce de la direction des routes d'Île-de-France ce matin. L'A13 fermée depuis vendredi à cause de fissures entre le viaduc et le tunnel de Saint-Cloud. Valérie Pécresse demande la gratuité de l'alternative payante, soit l'A14. Quand les nouvelles technologies, Nicolas, volent au secours des abeilles pour tenter d'éradiquer le frelon asiatique, il décime les ruches, ruine et désespère les apiculteurs. Alors on innove, appelle à tous les cerveaux et on trouve ce petit capteur, par exemple, installé sur le frelon, directement pour le suivre jusqu'à son nid, Manon Derdevet.
Ce sont des petites balises qui ne pèsent pas plus de 28 mg. Elles sont mises au point notamment par l'Institut technique et scientifique de l'abeille et de la pollinisation. Sophie Pointeau est chef de projet et spécialiste de la lutte contre le frelon asiatique.
On capture les frelons ouvrières en train de chasser devant les ruches. On place ensuite une petite balise radio en l'attachant avec une petite ficelle et une petite pointe de colle. Ensuite, on relâche le frelon. Première chose qu'il va faire, c'est qu'il va vouloir rentrer dans son nid. Un drone serait équipé de l'antenne radio. Et donc, grâce à l'antenne, on va pouvoir le suivre et localiser ce nid.
Une technologie à destination des apiculteurs et des collectivités testée à grande échelle à partir du mois d'août prochain. Un outil utile, selon Éric Darrouzé, enseignant-chercheur à l'université de Tours. Mais il faut, selon lui, aller plus loin pour piéger le frelon et notamment en utilisant l'intelligence artificielle.
Bon, c'est des choses qu'on développe, des systèmes de piégeage avec de la reconnaissance vidéo. Et derrière, il y a une IA qui va permettre d'identifier quel type d'insecte a été capturé. Dès qu'il y a un piège dans lequel on trouve un frelon asiatique, eh ben, ça déclenche une alarme en disant attention, potentiellement, il y a des nids à proximité.
Et il faut agir vite. Selon lui, en France, le frelon asiatique est désormais responsable de la mort d'au moins 20% des abeilles domestiques.
Manon Derdevet, tout droit vers le titre en Ligue 1 de football. Le PSG pourrait devenir champion dès ce mercredi. Alors, après avoir dominé Lyon hier soir 4-1, puis il y a du changement sur la deuxième marche du podium, ravi par Monaco qui a délogé Brest hier soir 2-0. Enfin tiens, un biopic, ça faisait longtemps, enfin pas tant que ça, comme si Bob Marley, Elvis ou Freddie Mercury allaient remplir autant de salles de cinéma que de salles de concert. Voici donc Amy Winehouse, 2 heures ce mercredi en salle. Alexis de Meyer, c'est donc une biographie efficace, nous dites-vous. Quoique un peu aseptisé.
Une Amy Winehouse pas très destroy, accompagnée par un père ultra bienveillant et un mari ni trop pervers ni trop narcissique. Il y a parfois un petit côté bisounours dans ce back to black pas si dark. Un point de vue totalement assumé par la réalisatrice Sam Taylor Johnson, qui avait signé l'adaptation ciné de 50 nuances de Grey.
Ma liberté était totale parce que j'avais tous les droits musicaux. J'ai pu faire exactement le film que je voulais. Mais mon idée, c'était de me placer de son côté. Et la vérité, c'est qu'elle regardait son père avec amour. Elle regardait son mari avec amour. Et d'ailleurs, on les voit consommer de la drogue, on voit la prison. On n'édulcore pas la réalité. Mais je n'ai pas fait un film qui prétend dire qui est responsable de sa mort.
Reste que les scènes musicales sont une réussite, grâce notamment à la jeune actrice Marisa Abella, qui insuffle beaucoup d'humanité dans son interprétation de la diva britannique.
Ce n'est pas n'importe quelle voix, c'est la voix d'Amy Winehouse. Une voix immédiatement reconnaissable, une voix brute, authentique et aux variations infinies. Je ne suis pas chanteuse, mais je me suis entraînée très dur pour essayer de m'en rapprocher le plus possible.
Ce biopic a en tout cas la bonne idée de se concentrer sur une période charnière plutôt que sur l'ensemble de la vie d'Amy Winehouse, mais le scénario comme la mise en image sont décidément bien trop sages.
Voilà, Back to Black, ce mercredi, sur vos écrans, dans vos salles, Nicolas.
Merci Florence Paracuellos. Invitée de Léa Salamé à 9h20, Mathilde Favier, la directrice des relations publiques chez Dior. Elle publie Mathilde à Paris aux éditions Flammarion.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques. Devis et rendez-vous en ligne, tout simplement, sur Euromaster.fr.
Il y a pas mal de gelée blanche ce matin, Marie-Pierre.
Et oui, Nicolas, on se couvre. Moins 3 à Nevers ou en Moselle, moins 2 à Vichy ou sur les Ardennes ou à Guéret, moins 1 à Mont-de-Marsan, 0 à Albi, un petit degré à Poitiers comme à Épinal, 3 à Bordeaux, pas plus de 4 à Paris, 5 à Biarritz et 10 à Nice. Côté ciel, le soleil est plutôt généreux sur une large moitié ouest avec quelques nuages près des côtes de Manche avec parfois une ondée, alors que la face à l'est est toujours soumise à l'instabilité apportée par la dépression sur l'Europe centrale, donnant des averses et de la neige des Vosges aux Alpes jusqu'à la Corse, mais aussi sur le Massif central et même les Pyrénées à très basse altitude. Soleil également sur le Golfe du Lion, Côte-Varoise, sous un vent assez fort.
Et ça va se couvrir sur le nord cet après-midi.
Et oui, car la dépression britannique va finir par rentrer et ennuager le ciel de la Bretagne au Cotentin avec pas mal de cumulus au nord de la Loire et même une averse possible jusqu'en Île-de-France. Et en plus, la bise va accentuer le ressenti du froid. 2 à 3 degrés en moins. Seules les régions de l'Est, comme le matin, auront des averses et de la neige à basse altitude. Des Vosges à la Corse ou même des orages qui pourraient éclater par contraste avec l'air doux de la Méditerranée. Et puis du sud-ouest, par contre, à l'Occitanie, au Golfe du Lion, ce sera soleil mais sous le vent. Et le mercure donc bien froid pour la saison. On attend un changement quand même pour jeudi. D'ici là, glagla, pas plus de 7 à Saint-Étienne, 10 à Calais, Dijon, Rouen, 12 à Saint-Brieuc comme à Mougins et Paris. Vous aurez 13 à Marseille comme à Angers, 14 à Casteljaloux et Juan-les-Pins. Il fera quand même 17 Ajaccio en se rappelant l'exploratrice Alexandra David-Nel. Il fait froid parce que l'on regarde là où il n'y a pas de chaleur.
Ça, c'est puissant. Merci Marie-Pierre. Il est 8h20.